bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h. C'est la bande originale, soyez les bienvenus avec Léa Cadeau-Boudali.
Bonjour à tous.
Daniel Morin.
Bonjour Daniel.
Jérémy Crespi.
Bonjour.
Tout à l'heure, il y aura Tanguy Pastureau, Albert Algou.
Salut.
Et...
salut.
Ouais, voilà. Et nos invités sont Alice David et Arnaud Ducret. Oh. Bienvenue à tous les deux. Nous allons parler de ce film qui est touchant, qui s'appelle Monsieur Je sais tout. Vous gardez cette coiffure, Elisabeth, ou c'est juste une...
Non, on est à la radio, non.
À Paris. Oui, mais il y a des caméras partout, ça va se voir.
C'est aussi touchant que le film.
Oh, joli.
Je n'ai pas vu ce que j'ai fait, mais vaut mieux pas.
Mais ça, c'est... ça vous va très bien.
Merci. Voilà, j'ai un soutien. Voilà.
Le film signé, co-signé par Stéphane Archinard et François Prévost-Légoni. Qui sortira donc ce 9 mai avec vous deux, mais il y a également Max Bessette de Malglaive qui est juste dinguissime, bouleversant.
Il y a surtout Max Bessette de Malglaive d'ailleurs.
Et émouvant. Non, mais vous êtes pour beaucoup tous les deux, mais c'est vrai qu'il est bluffant, on va l'expliquer pourquoi. Jean-François Quéré, Caroline Silol qui joue le rôle de votre maman, Féodore Atkin et Christophe Bourseiller, notre pote, qui se retrouve docteur psychiatre de la Fédé.
Qui est très très bien.
De la Fédé. Parce qu'on est dans le monde du football, mais bon, c'est pas le foot qui est, et pourtant le roman s'appelait La Surface de Réparation, c'est pas le foot qui est au cœur du sujet, c'est simplement la normalité, puisque normal est un mot qui fait rire ce petit garçon qui est autiste Asperger. Asperger. Vous êtes un bourrin, un entraîneur.
le raccourci. Ah non,
bienvenue Arnaud, bienvenue.
C'est bien défini.
Au début tout du moins.
C'est un homme libre.
On va pas donner le twist.
Tu dis
c'est un bourrin, il a pas de cœur,
il est solitaire en tout cas. Il est solitaire. C'est surtout que tu te dis,
il est solitaire, il est dans un jacuzzi avec deux filles.
Mais c'est surtout que tout au long du film, tu vas te demander quel est le plus autiste des deux. En fait.
C'est ça.
Voilà, c'est surtout
ça. Au sens coupé de l'extérieur, coupé du monde,
voilà.
Vivant dans sa propre bulle. Et quant à vous, Alice David, vous êtes la nouvelle docteur ou doctoresse qui s'occupe de ce centre de formation de jeunes footballeurs, mais qui s'y connaît en autisme et qui décèle en voyant ce petit garçon et qui sait les mots et les chemins par lesquels il faut passer pour communiquer avec lui.
Ouais, absolument. Elle va mettre des mots très vite sur le syndrome. Enfin, elle va pas forcément poser un diagnostic, mais elle va imaginer qu'en effet ce petit garçon puisse être autiste Asperger. Et donc essayer de donner les clés à Vincent, donc le personnage qui est joué par Arnaud Ducret, pour entrer en contact avec lui et voilà.
Vous, Arnaud, vous êtes entraîneur de foot, vous êtes coupé de la famille puisque vous êtes un sportif qui a tout plaqué, son papa n'a pas voulu qu'il soit sportif, voilà. Donc vous avez pris la même cabriolet Mercedes avec laquelle vous roulez apparemment depuis
qu'il y a papa. Je suis parti à 16 ans, je suis parti à 18 ans pardon, et j'ai pris la voiture du papa, j'ai tourné le dos à la famille, voilà. Donc c'est une espèce de fuite en avant, on disait solitaire, mais voilà, c'est une fuite en avant aussi.
En ayant fait une carrière au sein des Girondins de Bordeaux, en étant victime d'une blessure d'un match, une blessure qui vous a coupé en deux la jambe, au point de ne plus pouvoir jouer, mais entraîner. Donc vous êtes dans la transmission, et dans l'éducation, et pourtant cette transmission a du mal à passer avec ce cousin, le fils de ma sœur,
qu'on m'impose et que la famille va. En fait, c'est ma famille qui me rattrape quoi et qui m'impose ce gamin. Voilà, Léo, qui est joué par Max Bessette de Malglaive, comme vous le disiez. Et voilà, et ce gamin va intervenir dans ma vie et va chambouler. Moi, je suis censé partir en Chine d'ailleurs dans le film pour signer un gros contrat avec les Chinois et entraîner des footballeurs là-bas. J'ai aucunement envie d'avoir quelqu'un dans ma vie et encore moins un gamin qui en plus.
En tout cas, pas d'attache, pas de boulet.
Et en plus, moi, je ne sais m'adresser, comme on disait, quel est le plus autiste des deux, c'est je ne sais m'adresser qu'à des footballeurs. Moi, je ne m'adresse pas à des enfants. Donc, je ne sais même pas comment parler à ce gamin. Et voilà, et quel des deux va apporter le plus à l'autre. Voilà, aussi dans ce film, c'est ça qui est intéressant.
Ouais, c'est ce qui est très, très touchant, au-delà de l'interprétation de Max Bessette de Malglaive. C'est ce lien.
Il faut qu'il trouve un pseudo, d'ailleurs. Pour aider les animatrices et les animateurs de radio.
Mais non, Max,
c'est bien. Il n'y a aucun comédien qui s'appelle Max. Allez, Max.
Non, mais non, tu t'appelles Nagui.
Évidemment, je respecte. justement, j'ai évité à tout le monde.
Moi, je t'appelais Nag au début. Nag.
C'est vrai, t'avais pas le temps. T'avais pas le temps. T'étais pressé, d'ailleurs. T'es trop long.
Moi, je l'appelle.
Max B7 de Malgré.
L'enflure, tout le monde comprend.
Non, non, moi, j'ai beaucoup aimé ce film parce que déjà, cette relation-là.
Le football aussi.
Elle est très touchante. Non, les plans sont absolument magnifiques. Il y a une façon de filmer aussi. On parle souvent du propos d'une histoire et c'est important. Mais quand il y a du cinéma aussi, ça fait du bien. Et de ce point de vue-là, je trouve que ça, c'est un vrai bol d'air. On sort de là, on est. Bah, ça fait du bien. Ce film fait du bien. C'est pas un feel good. J'aime pas trop cette dénomination. Mais je trouve vraiment sincèrement que c'est très très bien joué. Je suis très heureuse de vous voir, Arnaud Ducret, dans un rôle comme celui-ci.
Merci. C'est gentil. Ouais.
De bourrin. Ouais.
Bon, alors moi, je suis très heureux de voir dans un rôle comme le vôtre, Elisabeth.
Merci. Disons, oui,
on va équilibrer.
Non, mais c'est, je veux dire, sur l'habitude des rôles. Non, Arnaud, on vous a reçu récemment pour Les Dents, Pipi au lit. Ce qui a rien à voir dans le personnage, même s'il peut être tendre par ailleurs. Mais là, il y a quelque chose, je trouve.
En tout cas, il y a ce point commun de
très porteur.
De partir d'une image. Et votre physique aide. Et j'ai lu d'ailleurs que pour le choix du comédien, pour le casting, entre guillemets, votre physique a encore plus aidé. C'est-à-dire que vous êtes une masse, vous en imposez musculairement, physiquement. Et de voir quelle est la part de sensibilité derrière cette brutasse.
On vous a trouvé une humanité à laquelle on ne croyait plus.
Non, mais c'est, on dit comédie dramatique pour ce film d'ailleurs, parce que François et Stéphane, les réalisateurs, ont se sont inspirés aussi, on va dire, c'est de la chèvre. C'est-à-dire que c'est ce physique totalement différent. C'est deux personnages qui n'ont absolument rien à voir et qui vont se retrouver et être obligés de se comprendre, d'apprendre à se comprendre. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils, c'est là-dedans qu'ils ont tiré la comédie en s'inspirant de ça.
Et moi, j'aimerais l'opinion d'Albert, parce que s'il y en a bien autour de cette table qui s'y connaît en autisme, c'est toi.
Dieu.
Non, mais parce que tu défends cette cause et on en a souvent parlé ensemble ici. Quel a été ton regard sur...
J'avais des appréhensions parce que souvent, les Asperger sont montrés sous un regard... Ouais. C'est un regard assez spectaculaire qui est porté
surdoués,
On met l'accent sur des performances, un peu, j'allais dire, comme si c'était des chiens savants. Et donc, j'avais un petit peu peur. Et aussi de l'esthétisation du handicap. Or là, dans le film, c'est très très juste. Les observations qui sont faites sur les difficultés de communication, vous voyez, j'en ai moi aussi, difficultés de socialisation, et puis tout ce qui fait partie du syndrome, c'est-à-dire les troubles, j'allais dire neurocomportementaux, c'est très 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 bien observé. Le comédien Max, dont on parlait, je cite juste son prénom,
Max Bessette de Malglaive,
est tout à fait remarquable. Et puis les deux personnages que vous incarnez, donc c'est ce coach qui ignore totalement ce que peut être un enfant Asperger ou un enfant autiste, parce qu'il faut distinguer les Asperger des autistes.
Et oui, parce que autisme recouvre différentes...
Voilà, on dit qu'il y a autant d'autisme que d'autisme, mais là, c'est un Asperger, c'est-à-dire qu'un Asperger, pour ceux qui nous écoutent, c'est une forme d'autisme, mais sans déficience intellectuelle. Mmh. Voilà, c'est-à-dire des grandes capacités intellectuelles, mais par ailleurs, il y a les troubles du comportement et certains troubles du développement.
Et il y a surtout un problème de communication, d'intégration aux autres. On ne sait pas... Il faut peut-être des écoles spécialisées. Est-il
capable? Comme le fait l'association Les Vies en Bleu, que je parraine.
Exactement. Oui, exactement. Tu as raison.
Non, mais c'est vrai que
vivre ou pas en communauté, intégrer. Et puis alors, une équipe de sport, c'est vrai que là, ça devient encore plus intéressant, que ce soit dans le monde du foot. Ça aurait pu se passer dans un autre milieu, mais là où c'est le monde du foot, c'est que c'est un monde qui est un peu intransigeant, où on est bon.
Et populaire.
On est adulé par tout le monde, où on est un peu le boulet. À ce moment-là, on est carrément la bête noire de l'équipe.
Non, mais c'est vrai que tout ça
peut souffrir.
C'est vrai que vous parliez d'Asperger et tout, mais c'est parce que les réalisateurs ont voulu traiter ce syndrome qui, j'ai envie de dire, c'est un conte en fait qu'on a raconté, c'est une histoire entre ces deux personnages, et c'est vrai que, mais effectivement, le spectre de l'autisme est tellement large. C'est-à-dire que on avait des parents qui venaient nous voir, qui disaient, c'est vrai que je reconnais pas trop mon enfant, mais qui étaient quand même heureux de voir le film en se disant, voilà, vous parlez quand même malgré tout de ce syndrome. Il y a des gamins, ils peuvent pas manger, il y a des gamins qui peuvent pas rester dans le noir, il y en a, c'est très très sombre, c'est hyper dur.
Ils mangent que les aliments de la même couleur.
C'est hyper dur. Donc, avec ce film, on a quand même malgré tout, on met une petite pierre à l'édifice, parce qu'il y a pas mal d'associations qui sont nues, plein d'enfants autistes, pas Asperger, mais d'autistes un peu plus légers, qui malgré tout regardaient le film et regardaient Max en se disant, en regardant leurs parents, ils disaient, bah t'as vu, ça c'est nous les héros là. Ouais. Donc
Alors ça reste une comédie.
Ça reste une comédie.
Il y a des vannes. D'ailleurs, le fait de l'appeler Monsieur Je sais tout, c'est, ça fait partie de cet esprit vanne, de ce décalage qu'il y a, comme vous parliez, façon chèvre entre les deux. Il y a aussi le clin d'œil à Rain Man. Je l'emploie d'autant plus facilement que il apparaît dans les interviews, que ce soit des scénaristes et des réalisateurs. Vous-même, d'ailleurs, vous avez revu.
Bah moi, je l'ai vu. Ils se sont pas inspirés de Rain Man à la base, mais je pense que c'était comme il le dit. Il y a la voiture, par exemple, du père qu'on a dans Rain Man, où Tom Cruise récupère la voiture de son papa, cabriolet aussi d'ailleurs, vieille voiture cabriolet. Il y a la fuite où il a quitté sa famille très tôt.
C'est une référence.
Une référence. Et puis surtout, il cherchait une faille pour mon personnage. Et c'est vrai que sans penser à Rain Man, ils se sont dit quelle pourrait être la faille de Vincent. Est-ce qu'il voulait un truc sur la paternité aussi. Ça serait bien qu'il soit fâché avec son père, avec sa famille. Donc on revient un peu.
C'est aussi l'histoire d'une prise de conscience. C'est-à-dire comme on l'est tous pour plein de problèmes qu'on ignore, et n'y étant pas confronté, on est craintif. On est dans la crainte, on est dans l'ignorance. Et là, c'est une histoire d'altérité aussi. C'est-à-dire, le personnage que vous incarnez, il va vers ce garçon et il surmonte ses peurs. Et le personnage du médecin est très intéressant.
David, c'est-à-dire que, oui, et puis il est révélateur surtout.
Le personnage du médecin est très intéressant parce que c'est un contrepoint justement à l'ignorance. Et elle, sans didactisme et sans que ce soit militant, pénible, elle souligne les problèmes gravissimes de la situation de ces personnes. Les enfants, mais aussi les adultes. C'est-à-dire l'absence de prise en charge, c'est-à-dire l'absence d'endroits pour les accueillir, mais d'endroits humains, parce que c'est facile de créer des institutions de plus en plus énormes, ce qu'on fait. Or, ce qui compte, c'est un accueillement humain. Et donc, il retrouve son oncle, et il est dans un milieu qui lui est hostile, puisque d'abord, vu ses difficultés de communication, il peut envoyer chier ses camarades de foot en leur faisant des réflexions qu'ils apprécient
pas
du tout.
Aucun
filtre, parce qu'ils sont dans une naïveté totale et une innocence immédiate.
C'est pas de l'agression, il dit toujours la vérité.
C'est pas du tout de l'agression.
Et
du
filtre coup, pas.
En retour, lui, il est agressé.
Ça,
c'est très bien vu aussi. Ouais. Et c'est très émouvant.
Et alors, il y a cette histoire de petite lumière que vous évoquez. Mais moi, je veux savoir, est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous avez bossé le sujet au point de savoir que, en effet, les enfants peuvent espérer cette petite lumière qui les fera sortir de leur bulle?
Je pense, en tout cas, j'ai l'impression que c'est une vérité. Moi, avant d'attaquer le film, je connaissais pas grand-chose au sujet de l'autisme.
Ouais, mais comme nous tous,
on
en entend parler, mais on n'a pas les détails.
Comme tout le monde, et je trouvais que c'est une belle entrée en la matière parce que il y a un propos qui est assez positif, assez simple sur ce sujet-là. Ça parle de la différence, quoi. Donc voilà. Mais la petite lumière, en effet, je pense qu'elle est dans, elle est chez plein de gamins.
Il y a un espoir, il y a une étincelle.
Il faut pas la briser.
Il faut pas la briser, sinon on la retrouvera pas.
Ouais. Et puis au-delà de ça, je pense que chez les autistes, en tout cas Asperger, il y a quelque chose de l'ordre de l'oversensibilité, de grande sensibilité. Et je pense que chez plein de gens qui sont très sensibles, on peut abîmer cette petite lumière en
Alors, ça reste, je l'ai dit, une comédie avec le talent de Max Bessette de Maguev, qui est encore une fois un comédien et qui n'est pas un autiste, parce qu'il est, c'est pas...
Ça, à chaque fois qu'on le disait, pardon Lebert, mais à chaque fois qu'on le disait en projo, quoi. Donc c'était, alors les gens étaient assez bouleversés. Franchement, ça nous, on a été portés par ce film. C'est on avait
parce qu'il est juste et qu'il n'en fait pas trop.
Voilà. Ouais. Et alors on arrivait et les gens disaient alors ce gamin, alors je vous le dis, dans la conversation quand je parlais avec les gens, j'ai alors effectivement oui, alors, vous le savez pas, mais cet enfant n'est pas autiste. Et là t'entendais les gens dire quoi. Tout le monde était assez stupéfait. Ouais. Donc ça, on se disait tiens, il a touché un
et
truc.
Et puis
quoi.
Je crois qu'il a 18-19 ans.
18 ans. Ouais.
Ouais
18 ans,
et dans le film, tout d'un coup, on a l'impression qu'il en a 12.
Ouais,
quoi.
Exactement.
Parce qu'il fait 1m50. Et alors il paraît que pour le cadrage entre vous 1m92 et lui 1m50, c'était pas facile.
Ah bah ouais, j'ai travaillé les cuisses, hein. J'étais en flexion.
J'étais en demi-squat.
Ils osent des trucs, par exemple le rire. C'est un rire très particulier qui peut déranger.
Ouais.
Il a un rire qui pourrait être à la fois inquiétant, grotesque et tout. Mais ils osent carrément le faire. Ouais. Ça, c'est chouette parce qu'ils montrent les choses telles qu'elles sont.
Ça, c'était une de ses craintes, le rire. Il avait peur. Et il me disait souvent, ça va le faire ou pas ? Ça va le faire. Je lui dis, pendant la scène, je lui dis, mais non, mais c'est vachement bien.
Une série aussi sur l'autisme, c'est Atypical.
Sans enlever le mérite à Pascal Duquesne du rôle qu'il a tenu aux côtés de Daniel Auteuil, c'est sûrement aussi cette référence que l'on avait en se demandant est-ce que c'est un malade que l'on demande de faire le comédien ou au comédien de reprendre les codes de l'autisme.
Parce que dans le 8e jour, c'était un trisomique.
C'est un trisomique.
Ouais. Trisomique. Ouais.
Et donc, l'autre fois, il y a une dame qui me dit, une maman d'autiste qui me dit, mais pourquoi vous prenez pas un autiste pour faire un autiste? Alors déjà, moi, je défends un peu ma paroisse. J'ai envie de dire, les comédiens, c'est pas. Sinon, pour faire un serial killer, tu prends un serial killer. Je veux dire, le vrai message, c'est surtout, je dis, mais pourquoi on prendrait pas un autiste pour faire un boulanger? Ou pour faire un prof de sport.
Absolument.
Et là, c'est là, elle m'a dit, oui, c'est vrai, effectivement, c'est là où on devrait arriver à
ouais,
aller.
On n'y est pas là.
Le film s'appelle Monsieur Je Sais Tout, et c'est une comédie romantique aussi, parce qu'il faut bien dire qu'avec une...
Je n'ai signé que pour ça. Hein.
Une jolie fille comme Alizé David, et un footballeur comme Arnaud Ducret, il y avait un moment où il peut y avoir rapprochement.
Il y a but, je vous le dis.
Hors cadre.
Voilà. Prends-toi une vanne, poteau, ça t'apprendra.
On ne demande pas la vidéo, parce que bon, voilà.
Alice David qui a le talent de réussir les pieds mouillés à retirer son jean sans jamais se pencher. Là, moi, j'ai trouvé ça très fort. C'est la magie du cinéma. Il a retenu que ça. J'ai halluciné. Comment elle a fait pour enlever son jean?
Jamais, mec, on nous a dit un truc comme ça.
C'est la première fois. Non, mais l'encouragez pas, parce que je veux dire, après, ça va être tout le film.
Mais moi, par ricochet, je plains Madame Guy qui a dû essayer parce qu'elle a dit, vas-y, fais voir comment on fait. Qui a dû se casser la gueule.
Non, mais au contraire, je fais tout pour encourager les gens à aller voir le film en disant Alice David enlève son pantalon. Il n'y a pas que ça, évidemment. Heureusement, loin de là dans ce film qui fait du bien parce que encore une fois, c'est une leçon de la vie, des valeurs, des rapports humains, des rapports familiaux.
Emmenez
aussi
vos enfants parce qu'il y a plein de gamins d'ailleurs, des enfants, je veux dire entre guillemets normaux, qui ont vu le film et qui justement apprennent, qui comprennent que c'est pas parce que t'as un gamin qui est un peu différent,
qui n'est pas comme les autres,
un petit peu différent, qui n'est pas comme les autres.
Ça peut aider les enfants à accueillir.
Ça contribue justement à changer le regard des enfants et à combattre l'ignorance et souvent l'hostilité que rencontrent ces personnes.
Bravo Albert.
Ça sort demain, donc après-demain, pardon, ce mercredi au cinéma.
Mais demain, 9 ça sert à rien.
Non, demain c'est le défilé, donc ça n'a rien à voir.
Tu peux aller au cinéma quand même demain.
Justement, Maréchal Ganache. Avez-vous compris pourquoi Elisabeth et Arnaud Ducret?
Affirmatif. Mais s'il y en a un qui sait le pourquoi du comment ici, c'est JNB, le gars de Coulommiers qui s'entraîne fort.
Notre rédacteur en chef.
Oui, qui sont Colomiers, qui vous sert de factotum juste avant l'émission. Quand vous lui avez demandé le nom des invités, ils sont forts avant l'émission, mais juste avant l'émission, quand vous lui avez demandé le nom des invités, la raison de leur venue, après qu'il vous ait répondu « Arnaud Ducret, Alice David pour un film, Monsieur Je Sais Tout », tout en lui balançant un bourre-pif, vous avez hurlé « Primo, tu te fous pas de ma gueule en m'appelant Monsieur Je Sais Tout ?» Deuxio, « Ok pour Alice David, mais Arnaud Ducret, ça fait 36 fois que tu m'invites dans la bande originale, j'ai épuisé tout le stock des questions, de tes questions, que je peux lui poser. » Mais au mon maître, dans ce film, Arnaud Ducret joue le rôle d'un ancien joueur devenu entraîneur de jeunes footballeurs. Ah, nom d'une fellow, tu pouvais pas le dire plus tôt. Ça change tout. Le foot, c'est le seul sujet que je maîtrise à fond, parfaitement et sans tes fiches. Si je peux parler foot avec Ducret, ok, je prends. Voilà comment s'est préparée cette émission, Madame David. Mes hommages, madame. Et Monsieur Ducret. Bonjour, bonjour, monsieur. Pour ma part, j'ai beaucoup aimé Monsieur Je Sais Tout. Et le coach que vous incarnez, Monsieur Ducret.
On dit coach. En France, on prononce... Ça s'écrit coach, mais c'est coach.
En France, on est chez nous.
Oui,
oui. Le coach, si vous voulez, que vous incarnez, Monsieur Ducret, est un gars comme je les respecte. Il y en a dans le froc, avec toutes les qualités, autorité, intransigeance, virilité, qui font les meneurs d'hommes. Mais il y a un bémol. Je trouve qu'il se laisse, je vous en ai parlé un instant, qu'il se laisse un peu trop attendrir. Tout d'abord par la charmante Toubib que vous incarnez, Madame David. Ceci dit, à cette Toubib, je lui tire mon képi, car en exerçant son métier comme elle le fait dans un milieu d'hommes, elle montre elle aussi qu'elle en a dans le froc. Alors, autre bémol, cher Arnaud Ducret, je trouve que votre personnage se laisse également un peu trop attendrir par son neveu, un gosse insupportable, sous prétexte que ce gamin est allergique aux asperges. Alors, pendant que j'y suis, je ne sais pas si j'aurai le temps, j'aurais voulu aussi évoquer, pour terminer, un de mes légionnaires qui, à Chelon, au cabaret L'Œil de Bronze, dans le quartier chaud de Saigon, avait pour surnom l'aspergeur. Mais ça sera pour une autre fois, car moi, c'est à votre bande d'incapables que je suis allergique, Nagui. Et puis, à cause de mon handicap, je dois vous laisser en vous souhaitant tout de même une bonne émission.
Merci, Albert. La bande originale, Nagui, sur
France Inter.
L'occasion, Albert, de parler de ce recueil de bandes dessinées.
Ah, c'est gentil.
Mais non, c'est la moindre des choses.
Les cœurs simples.
Les cœurs simples.
Ah, pour ne pas faire jaloux, je vais offrir deux livres. Alors, c'est Les cœurs simples. C'est un recueil que j'ai rassemblé.
Une compilation
de textes de grands auteurs dans la littérature universelle, surtout depuis le XVIIIe siècle. Et chaque texte est illustré par un grand auteur de BD. Ça va de Bilal à Tardi, en passant par Zep, par Riyad Satouf, qui ont fait l'amitié d'illustrer ces textes. C'est magnifique. Et Les cœurs simples, les droits d'auteur vont pour un fonds de dotation, le fonds de dotation La Bonne Aventure, qui aide des associations, qui aide des autistes en grande difficulté, surtout des autistes adultes dits sans solution, parce que le problème en France aujourd'hui, c'est
qu'une fois qu'ils sont adultes, il n'y a pas d'encadrement possible, il n'y a pas de lieu pour les accueillir.
C'est formidable de parler de l'enfance, il y a des progrès qui sont faits pour les diagnostics, etc. Mais pour la prise en charge après, quand ils deviennent adultes, c'est souvent dramatique. Tenez, je vous l'offre.
Merci
et puis,
beaucoup.
C'est pour Alice, David.
Et pour vous, je vous offre...
Un bouquin de boules.
Down with the Kids, c'est Dave Godin, c'est un formidable dessinateur.
Qu'est-ce que c'est
il a été animateur.
De pétanque.
Il y en a aussi. Ça s'appelle Down with the Kids. C'est un livre absolument merveilleux. C'est les souvenirs d'animateurs d'un jeune dessinateur qui s'appelle Dave Godin sur des portraits d'enfants, des anecdotes, du vécu avec eux. C'est un livre tout à fait extraordinaire et c'est un jeune éditeur que je salue. C'est les éditions Roquemoute. Ça ne s'invente pas. Les éditions Roquemoute, Dave Godin, Down with the Kids.
Je peux lire ça à mon fils ou pas?
Oui, bien sûr. Il s'y retrouvera parce que ça va de môme de 4 à 12 ans.
Ah, je vais faire. Super. Merci beaucoup.
Formidable.
Merci. Monsieur, je sais tout, c'est ce mercredi au cinéma. On vous encourage à voir ce film. Et là, vos oreilles ont sifflé quand on vous a dit qu'Alice David revenait dans l'émission et qu'Arnaud Ducré revenait dans l'émission.
Oui, et quand je pense à vous, je pense à vos carrières respectives, à la façon dont vous les avez menées, ces carrières, notamment avec ce film Alice.
Rémi, le petit a fugué, on part le chercher.
Est-ce que s'il vous plaît, en attendant, vous pourriez virer tout le monde?
Aucun problème, Franck. Pas de souci. On gère.
C'est quoi ce bordel?
Et ça, c'était que le début.
Ah, les gars, c'est Rémi!
Rémi! Yep. Pardon, monsieur.
C'est un extrait de la bande-annonce de Babysitting avec Philippe Lachaud et toute sa bande. Vous avez aussi joué dans le 2. On reparlera bientôt de Bref, dans la bande originale de votre vie. Vous avez donc joué souvent avec des bandes, Alice. J'ai l'impression que c'est de plus en plus le cas dans la jeune génération. Est-ce que c'est quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur, cette notion de famille dans le boulot?
Je pense que oui, c'est important de s'entourer de gens avec qui on a envie de travailler. Ouais. Moi, je sais que ça s'est fait un peu comme ça, sans choix. Je me suis pas dit tiens, je vais bosser avec des bandes. Voilà, il y a eu au départ Bref, et puis ensuite l'aventure Babysitting. Ils m'ont appelé pour le rôle de Sonia, et on savait pas du tout où est-ce que ça pouvait nous mener. Et c'est surtout des coups de cœur pour des projets.
Et qu'est-ce qu'on en tire du boulot en groupe, en bande comme ça? Parce que ça se fait comme ça sans vraiment avoir une motivation initiale pour ce genre de projet.
Il y a un côté rassurant aussi, tu sais que...
Je sais pas justement, Alice, qu'est-ce qu'il y a?
Il
y a un côté équipe. Au-delà de ça, au-delà du côté bande dans les films, moi j'ai beaucoup bossé avec des duos de réalisateurs, c'est encore le cas pour Monsieur Je sais tout. C'est le cas pour le film qui sort après aussi, et je sais que c'est toujours assez intéressant parce que ça s'équilibre, ça se partage. Je pense qu'on fait quand même bien les choses en groupe. On peut se reposer les uns sur les autres.
Et c'est une façon d'avoir d'autres collaborations aussi, de créer des tissus. Je me dis que ça doit être intéressant dans le cinéma aussi de se créer des petites familles et de pouvoir aller de l'une à l'autre sans être forcément juste seul.
Bien sûr, je pense aussi, je suis d'accord, mais
Nagui, tu te moques.
Pas du tout.
Non, il pensait à un truc en groupe.
C'est pas
possible.
Enfin,
on est dans quelle émission, là? Attendez,
la bande originale, il y a bande.
Et c'est vrai que
quand Alice David veut se reposer sur tout le monde, Jérémy et moi, nous sommes regardés en disant
quoi?
Ouais, on peut la comprendre.
Bah, elle est juste fatiguée. C'est tout, les gars. Bon, alors allons-y. Allez, c'est à moi.
En revanche, vous, Arnaud, la bande, c'est un peu moins.
On peut se reposer sur toi aussi.
Vous, Arnaud, la bande, c'est un peu moins le cas.
Il a fait des comédies musicales et tout.
Non, mais il y a beaucoup moins dans votre filmo, en tout cas de
oui, c'est moins,
de boulot de bande. Ça veut dire que vous n'avez pas d'amis.
Voilà, le coup prêt. Tu le savais pas, hein.
Mais non, mais arrêtez, je
non, 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 non. Je sais pas, je sais qu'est-ce que je réponds à ça.
Bah, débrouillez-vous.
Bah, pleure. Non, mais pleure.
Vous vouliez parler.
J'ai pas d'amis. Si, si, j'ai des amis. Non, mais par contre, vous parliez de famille. Attends, regarde.
Qui? Qui?
Attends. Vas-y. Qui? Alors, dis-nous. Non, je disais que, non, par contre, vous parliez de famille. C'est vrai que c'est ça, parce que c'est, mais comédien, t'es tellement isolé, parfois. C'est-à-dire qu'il faut quand même exister, hein. Tu ne dépends que du, de l'envie des autres, souvent. Sûr, ouais. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que c'est bien de, il faut s'entourer. Voilà.
Ouais,
tu attends.
De s'appuyer sur.
Il faut s'entourer. C'est bien de s'entourer. Comme a fait Alice, quoi. C'est, tu t'entoures d'une bande de potes et puis c'est comme ça que les projets arrivent.
Et d'autant que la bande de potes peut éventuellement être à l'initiative,
voilà,
de projets.
Et elle sera aussi
à
l'initiative
attendre.
Après d'un ouais. truc. Voilà, ouais, donc, voilà, c'est ça. Non, il faut savoir. Les jeunes comédiens qui nous écoutent, ouais. surtout entourez-vous, voilà, c'est très important. Mm. Nagui, ne me regarde pas comme ça quand je dis entourez-vous, non, parce que je peux rien dire aujourd'hui. Ouais. Non, mais voilà, c'est ça qui est important.
Mais
il faut...
que ce soit. Non, mais on repense à Coluche et à toute la,
ouais.
la bande.
Coluche, il était. Bien sûr, il était au Café de la Gare, lui. Il jouait dans une pièce. Voilà.
Et Guillaume Canet a fait sa bande aussi. Et ouais, Fifi aussi.
Si vous deviez constituer une bande, aujourd'hui, vous prenez.
Ah, aujourd'hui, c'est trop tard. Bah, j'aurais des gens comme Jérôme Commandeur, Pef, ouais. Alice David, Alexandre Alamy, Lionel Astier. Ce sont tous les gens que j'aime beaucoup. Ben, il y en a d'autres, hein, mais là, mais c'est des gens qui tout de suite.
En fait, une bande, ça tient de quoi? Ça tient d'avoir les mêmes références.
Non, mais moi, j'aime bien m'entourer de gens qui sont. Non, mais il faut que ce soit, comment dire, dans la même énergie. J'aime bien les gens, moi, foncièrement gentils dans ce métier. J'aime bien quand, voilà, c'est simple.
Ouais, mais j'ai l'impression quand même que vous avez. Je repense à PF, à Astier, par exemple, au nom que tu as cité. Je revoyais Spamelot. C'est-à-dire, je me dis aussi, ça veut dire les mêmes codes en termes d'humour, les Monty Python peut-être
non,
en référence.
Non. Bah, si. Non, mais PF, pareil. Non, mais si je prends PF, je vais pas forcément prendre PF pour faire un truc comme les Monty Python.
Non, mais il se trouve que
je vous défonce.
Il se trouve que vous avez les mêmes racines en termes de goût et de culture.
Oui, bien sûr, effectivement. Ah bah oui, faut si on se comprend pas là-dessus, c'est même pas la peine, quoi. Ouais. Mais moi, voilà, j'aime bien les gens qui. Puis j'aime les comédiens. Enfin, je crois aimer les comédiens, comme sur Alice aussi. C'est-à-dire que je travaille pour la situation et pour que tout le monde soit bien et non pas.
Alors justement, sur Monsieur, je sais tout. Comment avez-vous travaillé, Alice David, sur le rôle de la doctoresse de ce club de foot?
Eh ben, comme pour tous les rôles, on travaille parfois seul, parfois avec des gens, des coachs, etc. Mais il y a aussi un truc qu'il faut souligner, c'est que
vous êtes documenté, vous avez
non,
cherché.
Non, elle a fait 8 ans de médecine.
Voilà, j'ai fait 8 ans de médecine en 2 mois, en fait, du coup. Mais véritablement, on a des textes et des dialogues qui sont très bien écrits. On n'a pas eu à modifier grand-chose. Et on a 2 réalisateurs, pour les citer encore, Stéphane Archinard et François Prévost-Légoni, qui aiment les comédiens et qui font des films, je pense, pour les acteurs. Ils ont vraiment cet amour-là. Donc on a aussi, entre guillemets, je vais pas dire un travail mâché parce que c'est différent, mais quand même, on a quelque chose qui est servi sur un plateau.
Ouais, mais il faut pas les décevoir aussi. Ils aiment les comédiens.
Exactement,
il faut leur donner ce qu'ils attendent.
Ils sont super généreux. Donc, c'est aussi facile d'être généreux avec eux. Faut dire qu'avec Arnaud aussi, c'est pareil. On s'est régalé. Je veux dire, c'est quelqu'un qui travaille énormément et c'est extrêmement riche. Max, la caméra s'allume. Je veux dire, il y a Max et puis la caméra s'allume. Il y a Léo qui apparaît. C'est un acteur hyper instinctif. Donc, on travaille aussi les uns avec les autres, en fait.
C'est quoi la direction de chaque personnage? C'est-à-dire que Arnaud, vous nous disiez la dernière fois que vous aviez bossé votre façon de marcher, parce que dans l'attitude, ça dit quelque chose d'un personnage. Là, ouais. Si vous deviez vous résumer, Alice, votre personnage à quelque chose, quel a été votre fil directeur pour l'incarner?
Je pense que c'est l'ancrage. Ouais. C'est vraiment Mathilde, elle sait où elle va, elle est très très ancrée dans la terre, elle dit les choses, elle les pose, jamais avec violence, toujours avec bienveillance,
etc. Elle a réglé ses problèmes, elle.
Exactement. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, les deux sont en train d'essayer de se régler et tout, alors que Mathilde, elle a dépassé les choses, quoi. Elle en parle à un moment donné dans le film, je vais pas spoiler, mais elle dit voilà, elle a réglé ses histoires.
On a même l'impression qu'elle a une vie, d'ailleurs, qu'elle a peut-être un amoureux, des potes, enfin qu'elle est.
Elle n'est pas en quête de quelque chose. Non,
alors que
lui est
complètement perdu, il est paumé.
Elle est complètement apaisée, elle revient au pays. Elle
ça va au niveau du dossier de la chaise
Excuse-moi.
C'était pas une chaise.
Le mec, il est déjà sur Paris Plage.
C'était un transat.
Ça y est. le gros bide. Revoir Redman, vous l'avez fait par curiosité pour ne pas copier, justement, c'est
non, ouais, je l'ai fait parce que j'avais envie de voir le rapport qu'avaient les deux personnages là, les deux frangins, Tom Cruise et Dustin Hoffman, et puis j'aimais bien voir aussi les moments de silence, voilà, la musique aussi, j'adorais là, ça m'a replongé un peu en enfance d'ailleurs parce que je l'ai vu, j'étais jeune moi. Donc on mettait souvent la musique de Redman sur le plateau.
Voilà. D'accord. Ça s'appelle Monsieur, je sais tout.
Absolument pas. pardon, ah non, on est sur un autre film.
C'est une comédie romantique.
Comédie romantique, dramatique. Pouah, c'est chaud.
Comédie romantique, ça ramènerait qu'à une histoire de couple et
non, comédie,
et je veux rajouter quelque chose, voilà, aussi, c'est ça. Et humaine, avec des valeurs.
Footballistique.
Oh là, putain, il s'en fait beaucoup là.
Okay, voilà. Bref, c'est un film à voir.
Et avec la plage.
Et ça sera ce mercredi, le 9, qu'il sera sorti avec Max Bessette de Malglaive, qui va faire beaucoup parler de c'est lui, clair. Contrairement à Jérémy Crédit.
Bonsoir.
Oh là là. J'aime pas les beaux, moi, à la base.
Eh bien, salut les jeunes, et salut Nagui, Albert, Daniel, ainsi que les trois quarts des gens derrière moi. Alors, c'est passé aussi inaperçu. C'est
passé aussi. Non, mais ils entendent pas. Et moi, tu me dis pas bonjour, quoi, en plus.
Mais si, il a dit salut les jeunes.
Salut Bombasse. Alors, c'est donc passé aussi inaperçu qu'un mot mal prononcé par Guillermo Guise. Pour info, il met à peu près 6 minutes à bien dire abribus. Hein. Les gens pensent que Guillermo joue au Bataclan les 27, 28 et 29 décembre. En fait, non, il démarre le 27 et termine le 29, puisque pour l'occasion, il ne voulait pas faire de faute d'élocution. Bref, la semaine dernière, une jeune femme de 20 ans a vendu sa virginité pour 1 million de dollars. Ouais, vous avez bien entendu, elle était encore vierge à 20 ans. Attention, mademoiselle, je ne juge pas, hein. Restez vierge aussi longtemps que vous voulez, ça fera plaisir à votre père.
Ou que vous pouvez.
Ouais. Pour ma part, les seules vierges de 20 ans que je croise le doivent à l'astrologie, donc félicitations. Les gens se sont pas mal indignés du fait qu'une fille puisse vendre sa virginité. Par contre, j'ai pas lu grand monde sur le fait qu'un mec achète la dite virginité. Hein. C'est un banquier de Wall Street qui a remporté l'enchère, moi je n'avais que 11 euros. 1 million de dollars, pardon de le dire, mais ça fait cher le craquage d'hymen quand même, vraiment. Non, si, quand même. Surtout que virginité ne rime pas avec hymen intact. Déjà, ça s'entend, hein. Virginité et intact, ça rime pas. À la rigueur, virginité, divinité, hymen intact et full contact, oui. Mais l'état de l'hymen peut être détérioré par la pratique du cheval. Et t'as beau être un riche banquier new-yorkais, tu ne fais pas le poids face à un percheron. Percheron qu'on salue. C'est quoi l'idée du banquier, là? Se dire, ah, grâce à mon pénis, tu n'es plus pure, Jasmine. Oui, la petite s'appelle Jasmine. À la base, elle voulait rester vierge jusqu'au mariage. Le mariage, vous savez, c'est ce truc qu'on décide à deux quand on fait encore l'amour. Alors, pour info, un mariage, ça coûte moins cher qu'un million de dollars, hein, même avec un super traiteur. Si Jasmine a vendu sa virginité, c'était surtout pour rembourser les dettes de sa famille, famille ravie, puisque je crois que Jasmine a deux petites sœurs. Donc, deux tickets gagnants. Hein, ce fantasme des Américains riches makers, ça c'est la faute à 50 nuances degrés. Hein. Si Christian Grey était chômeur, l'autre, elle aurait moins aimé se faire fouetter le cul, je pense. Hein. Franchement, le mec en plus, il est un peu con. Ben oui, ben bien sûr. Franchement, le mec est con. 1 million de dollars pour une première fois. Sexuellement parlant, une première fois, c'est nul. Moi, j'étais une limace sur une étoile de mer, tu vois. Je veux dire, non, mais c'est vrai. Une première fois, c'est comme l'heure de pointe dans le métro. Tu dois tasser pour rentrer.
On a tous l'image là d'un coup.
Ouais, on a tous. La première fois, t'as plus des. Attends, aïe, aïe, que des. Vas-y, je te dis, mais tiens-moi les cheveux. Bref. Selon Jasmine, la première fois, c'est bien passé. Le banquier s'étant comporté en vrai gentleman. Bah oui, la classe. Ah, je te tiens la porte et je te dépucelle. C'est limite un conte de fées, hein, puisqu'après minuit, hein, chez Jasmine, son joli carrosse était devenu citrouille. Je pense, je sais pas ce que foutait le R ici. Je pense à l'ex de Jasmine aussi, hein, ils se sont peut-être rencontrés à 16 ans, hein, elle lui dit qu'elle veut rester vierge jusqu'au mariage. Lui, ça fait 4 ans qu'il plâtre un mouchoir. Au bout d'un moment, le mec il en peut plus, il a de la semence au bord des yeux. Il demande la petite en mariage, sauf qu'il gagne le SMIC. L'autre, elle a le choix entre une robe blanche, un PowerPoint sur son enfance suivi d'une queue leuleux ou 1 million de dollars. Bon, comme c'est pas Patrick Sébastien, là on a rien à secouer des queues leuleux, Jasmine n'a pas choisi le million. Résultat, son ex est vierge à 20 ans, il en veut aux femmes et aux riches et il se radicalise. Pour sa défense, Jasmine dit qu'une femme a le droit de faire ce qu'elle veut de son corps. Ok, mais si toutes les femmes se mettent à monnayer leur virginité, à quoi sert le lycée, hein? Quitte à vendre sa virginité, mesdames, faites-vous poser un hymen factice et faites-vous passer pour vierge. Après tout, il y a bien des riches banquiers à Wall Street qui vous gagnent aux enchères et qui en plus se font passer pour des gentlemen.
Merci Jérémy Crédit. Merci.
Jérémy, comment on trouve du vendredi au dimanche, où ça?
Au Théâtre du Marais.
Mais pas ce vendredi parce que ta sœur se marie.
Exactement.
Mais tous mes voeux. Avec un banquier de New York.
Je sais, écoutez,
je sais pas, je vais le découvrir.
Ta sœur fait l'amour, très bien.
Bientôt.
On va parler de l'autisme aussi du point de vue de la loi et de leur protection. Sophie Jeannois sera notre invitée tout à l'heure. Elle est avocate. Il faut malheureusement les défendre aussi face à tous les problèmes qu'ils peuvent rencontrer dans la société. Défendre aussi les familles d'autisme, parce que certains droits sont bafoués. On va en parler avec elle dans quelques instants. Mais d'abord, en musique, qu'écoutiez-vous, par exemple, en 1900, je ne sais pas quand on commence, 87.
Saxophone.
Miles Davis. Ça, c'est pour Alice.
Trompette.
La trompette.
C'est ce qui se jouait à la maison ouais. L'année de votre naissance, vous pensez ?
Exactement, ouais, ouais. Enfin, c'est sorti en 86, mais ouais, ouais, j'ai entendu ça quand j'étais petite. Après, ça a baigné mon enfance.
Le jazz était à la maison grâce à papa, maman, tout le monde ?
Papa, essentiellement, ouais. Mais du coup, maman, forcément.
Et deux parents dans le théâtre, votre père metteur en scène et votre mère comédienne ?
Absolument.
Donc, ouais. Dès toute petite, j'imagine que vous traîniez sur les plateaux, vous étiez...
J'ai grandi dans des loges de théâtre, ouais, dans la poussière du théâtre. Non, mais c'est un vrai truc, j'adorais ça.
Non, c'est pas la poussière, il y a une odeur au théâtre.
Il y a une odeur, il y a un truc vraiment, mais c'est fait par tout ce qui s'y passe, quoi. Donc voilà,
Et forcément, l'envie d'être comédienne vient de là ou pas ? On n'a pas forcément envie d'être comédienne quand on est issu du sérail, forcément.
Moi, ça est venu assez tard, en fait. C'est venu assez tard. Je devais avoir, je sais pas, 19 ans. Je pense que ça m'a travaillé hein, quand j'étais gamine parce que j'ai vu mes parents travailler, mais ils faisaient pas des spectacles pour enfants. Donc, j'avais le droit de voir ce que je. Voilà.
ce que les parents autorisaient.
Exactement. Et non, j'ai commencé tard. Je pense que j'avais aussi la conscience de ce que peut être ce métier. Nous, aujourd'hui, on est au cinéma, c'est super et tout, mais la majorité des comédiens travaillent dans l'ombre aujourd'hui quasiment.
Ils gagnent pas forcément leur vie.
Et ils gagnent pas forcément. Voilà, donc c'est un vrai truc.
Souvent ils se droguent en plus.
Et vous vouliez.
Quelle image, dis donc.
Et vous vouliez être docteur. Pour les animaux, mais docteur.
Non, alors je voulais être vétérinaire, mais j'ai vu ensuite qu'il y avait.
Docteur
10
pour les animaux, toi.
Oui, j'ai pas
docteur pour les animaux, c'est mignon.
Par rapport au rôle de monsieur je sais tout, excusez-moi.
Quel génie.
Il est fort. Nagui, il est fort. Honnêtement, je prends des gifles.
Je sors.
Non, après j'ai vu qu'il y avait 10 ans d'études, donc je me suis un peu résignée. Enfin, j'ai vu mon niveau en maths déjà, et ensuite donc voilà.
Pour moucher un labrador, c'est vrai que c'est long quoi.
Et qu'est-ce qu'on apprend qu'est-ce qu'on apprend de façon quasiment inconsciente quand on grandit sur des scènes de théâtre?
Franchement, je sais pas vraiment. Je pense qu'on fait assez vite la différence entre la fiction et la réalité. Moi, je voyais ma mère, qui était ma mère, et je la voyais en personnage, en fait, quand elle était sur scène. Donc, ça, très vite, en étant gamin, tu prends cette distance-là. Mais, voilà.
En 2010, vous écoutiez Arnaud Ducret.
Toi qui faisais les chœurs.
Bob Sinclair, la song, pourquoi ?
Mais parce qu'en fait c'était c'est un souvenir. Je jouais Spamelot, la comédie musicale des Monty Python avec Pef.
À Bobino.
À Bobino. Et j'ai fait ça en permanence dans la loge avant de monter sur scène. On était tous là en train de hurler dans la loge comme ça. Donc j'avais une perruque. J'avais une perruque et trois costumes. Donc autant te dire qu'au bout de 10 minutes j'étais déjà en sueur. Et ça me rappelle vraiment ce moment où dans les loges on s'éclatait quoi.
Oui, c'est Spamelot, c'est aussi Caméra Café 2.
Ouais, exactement, Caméra Café 2 en même temps. Et j'avais la chance de faire Spamelot parce que Caméra Café n'a pas du tout marché. Ça a duré 3 semaines à l'antenne, ils l'ont viré. Donc heureusement que j'avais déjà la tête ailleurs pour pouvoir faire autre chose. C'est ça aussi, tiens, les comédiens. Soyez sur 10 plans en même temps parce qu'il y en a que 2 qui fonctionnent, voire 1.
Oui, donc ça a toujours été la stratégie pour vous de se dire on met pas tous nos œufs dans le même panier.
Il faut toujours avoir une année d'avance.
Mais d'ailleurs, c'est à cette période que vous prenez votre
plan de vachement fort au tir à l'arc d'ailleurs.
Ouais.
Personne ne sait, mais.
À cette période-là, c'est aussi pareil, mais en mieux. C'est votre aussi ça fait plein d'activités dans une
c'est à dire que quand j'ai arrêté Spamelot j'attaquais directement mon one man et c'est vrai que moi j'aime bien avoir la tête prise parce que si tu voilà c'était quoi tu rigoles oh putain
parce que j'imagine le bonhomme il faut qu'il s'occupe
oui, faut que je
quand je vois votre débit je me dis il est hyper speed et il faut qu'il s'occupe tout le temps
faut que je m'occupe tout le temps parce que c'est vrai que j'aime pas rester
la peur de manquer la peur de rater quelque chose de passer à côté d'une opportunité
mais je fais attention de pas en faire trop parce que sinon moi j'aime bien que les gens j'espère que les gens en me voyant sur une affiche de film par exemple se diront ah j'ai envie d'aller le voir plutôt que de dire ah c'est encore du cray
Donc voilà.
C'est ce que disait Nagui avant l'émission. Hein.
Donc, c'est surtout, alors évidemment, un, je ne l'ai pas dit, deux, c'est surtout un mal français qui a pu atteindre Jean Dujardin, comme Omar Sy, comme Cadmerade, enfin, c'est-à-dire que, ou Danny Boone, c'est un mal français.
Après, bon, ça va vite, hein, tu sais, c'est. Voilà,
c'est le bon dosage.
Et je pense que Fifi et toute la bande aussi, ils vont se prendre des vannes avec. Ils vont continuer, toujours la même bande, toujours avec les mêmes comédiens qui vont se.
C'est pas facile, honnêtement. Il faut faire attention.
C'est un pays de râleurs.
Donc ça veut dire que quand vous acceptez les projets, vous réfléchissez par rapport aux sorties en disant voilà, là il va y en avoir trop, faut que ce soit pas trop.
Non, mais j'essaie de faire en sorte que ça vraiment me plaise. Ouais. C'est-à-dire que quand je commence à trop discuter avec mon agent, quand on discute trop,
c'est mauvais signe.
Mais quand on fait j'aime bien moi ça, vas-y, je veux le faire et tout, bon, la plupart du temps, au moins déjà tu sais pourquoi t'es là, tu vas pas à contre-cœur.
Non, mais c'est ce qui est formidable avec le public, c'est qu'il y a une véritable histoire d'amour entre le public et les artistes, en règle générale. Et en même temps, il y a une exigence aussi, puis un jugement sur
Et je pense que quand on fait du cinéma, c'était Jamel qui m'avait dit ça d'ailleurs. Jamel Debbouze m'avait dit, tu sais, le cinéma, c'est Disneyland, hein, mais regarde ton one man parce que c'est ça le plus important, c'est toi, c'est ce que tu es. C'est là que, par exemple, si ton film ne fonctionne pas et que t'as ton spectacle, il est là, tu vas voir les gens, tu continues d'exister aussi artistiquement. Et
faut garder le basique, le fondamental.
Voilà,
et puis psychologiquement, j'imagine que c'est plus facile de tenir, quoi, parce que si le film s'écroule, on a le spectacle, on peut continuer à faire de la promo, on peut continuer à être.
On revient au fait de Caméra Café, j'avais énormément d'attentes puisque c'était mon premier gros contrat.
Vous remplaciez Yvan Le Bolloc.
Et ça fait 3 semaines, mais quand même ma tête était prise, j'ai
Il y a le retour direct du public hein, sur scène.
Et voilà, exactement. Ouais, voilà, ça tu connais. Voilà,
Alice David, non, il connaît pas encore. Il est sur scène, mais il n'y a pas de public. Donc il attend de.
Est-ce que tu as une très grande famille?
Non, mais tu es au niveau, j'ai eu le retour des deux personnes qui étaient dans le public. J'ai eu ça, t'inquiète mec.
Alice David en 2011, vous écoutiez. Forgive me.
Elle est romantique, cette Alice.
Ouais.
Elle est calme en tout cas dans ses choix musicaux.
Ah, Hélène Segarra, j'adore.
C'est Anthony Ed Johnson.
Ouais, exactement.
Absolument. Ah ouais.
Ouais. Forgive me. J'adore. J'ai un peu plombé l'ambiance, pardon.
Non,
pas du tout, j'étais là.
Moi, je voulais savoir, quand vous entendez cette musique, qu'est-ce que vous avez comme image?
Alors, en fait, c'est une anecdote plus, c'est que, en fait, c'est en 2012.
T'imagines, elle te dit oui, en effet. T'imagines?
C'est
ça, une grosse gaffe. J'ai envie de mourir quand j'entends ça. Alice, ça va pas ou quoi?
Non, déjà, bon, de base, je suis quelqu'un d'assez mélancolique, donc ça me touche beaucoup, mais au-delà de ça, la petite histoire, c'est que j'ai fait Bref, c'était en 2010, hein, c'est ça? Et donc, j'ai commencé à faire Bref, et on savait pas du tout où est-ce que ça allait nous mener, et à l'époque, du coup, j'ai gardé mon petit job, et mon petit job, c'était photographe au Crazy Horse. Et cette chanson accompagnait un tableau de Philippe Découfflé qui était incroyable. Et donc, du coup, à chaque fois, je m'échappais et j'allais regarder ce tableau-là à ce moment-là.
Pardon, d'où il y a une photographe au Crazy Horse?
En fait, c'est pour aller photographier les gens. Hein,
les clients,
les gens à table.
Ouais, exactement.
Comme ça, tu vends la photo 50
balles. Tu vends la photo 20 balles à l'époque.
Avec le mec qui bave et la femme qui est à côté comme ça.
Ouais, exactement.
Et la bouteille à 10 000 au milieu.
Exactement. Avec le caviar à la totale et tout.
Mais des photos en coulisses que tu peux vendre 50 000 euros.
D'accord, oui. Non, mais il y a des tableaux qui sont juste formidablement dingues au Crazy Horse.
En tout cas, à l'époque, c'était Découfflé.
Au Louvre aussi.
Je te jure.
C'est vrai. Il y a des nus aussi.
Pourquoi le guide, il a les seins nus là-bas? J'ai que ça à foutre, alors bon.
Allez-y, Alice. Je voulais conclure là-dessus, mais c'était. Et donc parlons de Bref, de ce jour du premier casting. En fait, enfin, vous aviez déjà rencontré
Kian Kojandi.
Et vous retrouvez un jour à devoir dire, je crois, la phrase, c'est Bref, je suis caissière dans un sex shop.
Ouais, et du coup, j'ai beaucoup d'échantillons. Et quand on passe ça en casting, on se dit, mais c'est quoi, je passe un casting, pourquoi en fait? Surtout quand on n'a pas vu Bref, on ne sait pas à quoi s'attendre. Et c'était une formidable aventure.
Vous commencez à bosser gratos en fait, c'est au départ?
En fait, on a fait comme tout le monde fait. Ils ont fait un truc vachement intelligent, les Harry Torjman, Kian et Navo, ils ont vraiment bien pensé le truc. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont allés voir Canal+ avec un pilote qui était déjà un épisode de Bref tel qu'ils étaient en capacité de le faire.
Très intelligent. Ouais, vendre des images via les images et pas sur un papier.
Potentiellement, on peut faire ça. Non, regardez, on a fait ça. Éventuellement, on peut en faire 80, si vous voulez. Et voilà. Donc, on a tourné un dimanche dans un appart dans le 18e avec toute cette bande. Moi, je connaissais personne à part un peu Kian rapidement. Et c'était une super aventure. On a fait l'épisode 1 qui est Bref, j'ai dragué cette fille. Voilà.
Salut Onkian, hein,
ouais, c'est devenu un phénomène, quoi. Bref, c'est quand même.
Non, puis c'est
ça a dû changer la donne, quoi.
C'est un très bon réalisateur. Ouais.
Un très bon auteur, un très bon comédien, un très bon réalisateur, ouais, vraiment.
Un bon gars, quoi.
Un bon gars.
Voilà, c'est ça.
On n'ira pas jusque-là.
En 2000, en 2012, à Arnaud Ducret, vous écoutiez Eddie Mitchell.
Tout juste d'avoir mes 14 ans.
Oh là là.
Je veux plus d'école, je suis devenu grand.
La classe, Eddie. Ouais.
Promets, je te gagne plein d'argent.
Ça va bien avec les rapports et la maman dans le film, Shirley, ouais. Aussi.
Ouais, c'est, ouais, j'adore. Ah bah cette scène d'ailleurs avec ma mère là, c'est. J'étais très ému là.
Joué par Caroline Seal.
Ouais, formidable. Ça m'a. C'est une, d'ailleurs une des raisons, enfin, pour laquelle j'ai fait ce film, c'est ce moment-là. Ouais. J'ai adoré. Quand ton père te veut, quand ton père voyait Léo, c'est comme s'il te voyait toi. Moi, ça m'a mis dedans direct. Donc j'ai adoré ce film.
Et 2012, pourquoi Eddie Mitchell? J'imagine pour l'oncle Charles.
Je tourne l'oncle Charles et mon premier long métrage avec Alexandre Lamy, Valérie Bonneton, Eddie Mitchell. Alors quand réalisé par Étienne Châtelier. Et là, je fais waouh, Eddie Mitchell. Et là, honnêtement, j'ai passé, c'était en Vendée, j'ai passé 2 mois, je crois, 2 mois extraordinaires avec Eddie. Le soir, je faisais mes sketchs où il chialait de rire. Et moi, il me racontait des anecdotes incroyables tout le temps. C'était, j'allais dans sa. À 11h30, il me regardait. Quand on tournait, il me regardait, il ouvrait la porte de sa loge, il me faisait Arnaud. ça voulait dire viens voir un coup. Alors, moi, je me mettais avec lui et j'étais en train de me dire putain, je suis avec Eddie. C'était mon premier film. Eddie Mitchell. En train de boire un coup avec Eddie.
Là, vous avez une tête de gosse, André.
Ouais. Et qui me racontait Coluche, qui me racontait tout ça. Je lui disais, raconte-moi Johnny ça, raconte-moi ça. Raconte-... Ah, il me disait,
oh, et tout en Camon. Ouais.
et j'ai rencontré, en rencontrant Eddie, bon voilà, donc il me racontait plein de choses. Ma mère, un jour, elle l'a rencontré. J'ai fait, maman, viens, je te montre Eddie. Eddie lui racontait Coluche et tout. Enfin, c'était un truc de dingue. Et donc j'adore ce morceau. Ça m'a ramené à ça. Et puis voilà, et donc à la fin, je suis allé voir Eddie qui jouait un singe en hiver avec Fred Testo. Et là, le jour où je viens au théâtre, le jour où je viens, il y a Johnny Hallyday. Donc Eddie me dit, je bois un coup avec Eddie, il me dit, je te présente mon cousin, Johnny. Et Johnny me fait bonjour avec sa grande voix. Et voilà, ce moment, et je me souviens qu'il a appelé Laetitia, lui disant, bébé, rentre avec sa grande voix là. Et j'étais comme ça en train de dire, waouh, grâce à que j'avais rencontré Eddie et Johnny. Et j'ai appelé ma mère le lendemain, je fais, maman, je peux mourir tranquille, j'ai rencontré Eddie et Johnny. Ma mère en fait, oh, mais t'es bête, hein.
Alice David, vous écoutiez Sacha Distel.
Oh, la belle vie. Sans
amour. Jazz à mort, toi, c'est un peu
sans soucis.
Non, mais ça, c'est plus.
C'est très chanteur mort, hein.
Ouais, bah non, Tony and the Donjons. Alors, je vais y arriver.
Toujours Johnson.
C'est Johnson.
Toujours vivant.
Toujours vivant.
Mais combien de films ont eu la belle vie dans leur BO? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup, beaucoup de films qui sont servis de cette musique, tellement c'est.
Bah, c'est inspirant. Moi,
ouais,
j'ai.
C'est la comédie romantique aussi, ça.
Moi, je vois Saint-Tropez à chaque fois, j'entends ça. Je sais pas pourquoi, je vois Saint-Tropez, je vois la mer, je vois.
Un bateau.
Les gendarmes. Ouais.
Je sais pas pourquoi, ça m'amène à ça, moi, à chaque fois.
L'Alcotès, c'est ouais.
Parce que c'est peut-être la belle vie que tu imagines, peut-être toi, aussi. Je sais pas. Ce serait quoi la belle vie pour vous?
Bah moi j'ai mis ça parce qu'en 2012 c'était je faisais les profs.
Ouais.
Premier long métrage de toute ma vie en fait. Donc avec Arnaud d'ailleurs. Et du coup cette chanson magnifique. Moi j'ai grandi avec les Robin des Bois. Donc quand je suis arrivée dans le bureau de PEF pour passer l'audition en fait, hein, j'étais là mais c'est bizarre quand même.
Il est pas tombé. C'est bizarre, il est pas tombé.
Je suis pas, j'ai cascadeur.
C'est pas tombé.
Non. Et du coup, ouais, c'était vraiment un truc de fou. C'est quelque chose qui se réalise. Donc on se dit, ah, la belle vie quand même. On a quand même la belle vie. Ouais, voilà, faut le souligner.
C'est
on a
bien
la belle
inconscient.
Vie.
Ouais, c'est ça. Il faut pas insulter cette chance-là que l'on a. En tout cas, de vivre sa passion.
Exactement.
Première chance qui peut se faire dans ce métier-là.
On a quand même une vie de rêve.
Dans tous les métiers possibles. Et certains ont moins de chances d'avoir une belle vie. Sophie Janois, et vous les défendez. Merci d'être à ce micro. Vous êtes avocate à la Cour, spécialisée en droit de la santé. Tout à l'heure, je disais qu'il fallait défendre les familles d'autistes parce que leurs droits étaient bafoués.
Tout à fait.
Généralement, je sais bien qu'on ne peut pas dire que tout le monde a toujours les mêmes problèmes, mais quels sont les points communs dans...
Tout le monde n'a pas les mêmes problèmes au regard des troubles spécifiques de son enfant, là, ça c'est sûr. Mais en revanche, à l'égard des institutions, tout le monde a les mêmes problèmes.
Alors, premier droit bafoué?
Le droit au diagnostic. Parce qu'en France, c'est très difficile d'obtenir un diagnostic. Il existe des centres spécialisés, mais ils sont totalement engorgés. Et donc, on attend des années pour obtenir un diagnostic. C'est une des mesures phares, aujourd'hui, d'engagement de l'État à réduire ce délai. mais c'est quand même assez redoutable de se dire on a un enfant qui manifeste des troubles, on ne sait pas ce que c'est, et on est dirigé vers des hôpitaux psychiatriques, ce qu'on appelle les hôpitaux de jour, ou des centres médico-psychologiques dans lesquels se trouvent des médecins qui ne sont pas formés à l'autisme, qui sont plutôt d'obédience psychanalytique et qui vont culpabiliser les mères en leur disant que probablement si leur enfant a des troubles, c'est qu'elles n'ont pas fait leur job ou voire qu'elles n'éprouvaient pas suffisamment de bons sentiments.
C'est fou, c'est fou.
Oui, oui, ça existe toujours. J'ai encore des appels de femmes, de mères pleurant et me disant voilà ce qui s'est passé, on a perdu tant de temps. J'ai longtemps cru que c'était ma faute et c'était moi qui ne faisais pas ce qu'il fallait. Or aujourd'hui, on sait parfaitement que l'autisme, c'est un trouble neurodéveloppemental, si bien que aussi bien l'amour que les bons sentiments ne sont pas propres à provoquer quoi que ce soit, ni à résoudre quoi que ce soit d'ailleurs.
Ça peut être posé à 18 mois, un diagnostic en plus.
Un diagnostic, on dit oui, qui peut être posé à 18 mois, voire 24. Ouais. Et aujourd'hui, la moyenne d'âge d'une pose de diagnostic, c'est 5 à 6 ans. Ouais. Donc on voit tout ce temps perdu, d'autant que les prises en charge dites précoces sont extrêmement efficaces sur les enfants autistes et les aident vraiment, vraiment, notamment aller à l'école, pouvoir gérer ces crises, etc. Est-ce qu'on parle aujourd'hui énormément d'inclusion qui est.
Alors, est-ce qu'on y croit à ce nouveau plan autisme ?
Écoutez, moi, j'y croirais quand j'y croirais quand j'aurais vu déjà les modalités d'application. Pour moi, il y a besoin d'une réforme législative avant toute chose. Aujourd'hui, on a des objectifs. Alors j'ai lu engagement. Le mot engagement de l'État, quand même, c'est un mot qui est censé être fort. Vient d'être nommé un ministre délégué à l'application, on va dire, du plan.
Ouais.
Donc un délégué interministériel qui doit être là pour superviser un peu toutes les institutions et voir qui fait quoi et faire en sorte que ce plan, donc, est censé améliorer considérablement le sort des personnes, des enfants comme des adultes autistes, voit le jour. Bon. On prévoit une certaine somme d'argent, 344 millions, me semble-t-il.
Sur cinq ans.
Pour moi, c'est une somme à mettre au regard des sommes qui avaient été versées auparavant. Donc, c'est une bonne chose. Mais surtout, on a un rapport de la Cour des comptes qui explique bel et bien que c'est 7 milliards d'euros, les dépenses liées à l'autisme en France. C'est une somme absolument considérable. Sauf que les familles aujourd'hui n'en voient absolument pas les bienfaits. Et on a toutes ces sommes dépensées, mais on va dire au mauvais endroit. On finance des médecins qui ne sont pas compétents, on finance des institutions qui sont pour l'enfermement et donc on ne met pas cet argent là où il faut, à savoir vers des interventions cognitives ou comportementales, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, des séances de psychologie dont ont besoin les enfants, qui sont des séances de cognitives ou comportementales, qui sont des méthodes qui viennent des États-Unis et autres, qui sont relativement efficaces, en tout cas pour un grand nombre d'entre eux, donc devraient être financées par la Sécurité sociale. Aujourd'hui, c'est de la poche des familles. Donc en fait, c'est comme si aujourd'hui vous aviez un enfant qui avait un cancer et qu'on vous disait, vous savez quoi, pour le soigner, vous devriez aller dans un autre pays parce que nous ici, on va vous donner de la potion magique. Et en plus, la potion magique, vous allez la payer de votre poche.
Mais à l'ère de la société civile, il n'y a pas un comité avec des gens concernés qui s'y connaissent, qui peuvent intervenir pour proposer, statuer, parce que c'est un peu ça l'histoire contemporaine de la politique française, non ?
Moi, je dirais qu'aujourd'hui, le seul moyen d'arriver à ses fins, c'est d'aller devant la justice, et c'est absolument lamentable. Et le seul fait que moi, j'existe, à savoir un avocat spécialisé dans la défense des personnes autistes, je trouve que je ne devrais pas exister. Le seul fait que je puisse faire vivre un cabinet, tant bien que mal, certes, mais que je réussisse à le faire vivre, en soi, c'est une ineptie. Donc, il existe des moyens de faire valoir ses droits devant les tribunaux. Donc, un diagnostic erroné, cette perte de temps, cette perte de chance, elle est indemnisable devant les tribunaux. Même chose quand une école ne veut pas d'un enfant autiste, elle le rejette.
J'allais dire, parce que le droit à la scolarité.
Mais le droit à la scolarisation, en soi, c'est un droit fondamental qui est inscrit même dans la Convention européenne des droits de l'homme.
C'est un droit de la République française qui n'est pas respecté.
Qui n'est absolument pas respecté. À savoir qu'aujourd'hui aussi, les lois spéciales ont fait qu'on a aménagé des scolarisations et autres des enfants de telle sorte que s'il y a quoi que ce soit qui ne va pas dans le rouage, l'enfant est tout simplement exclu de son école. Encore il y a très peu de temps, j'ai dû défendre une famille dont la petite fille avait été exclue de l'école parce qu'elle s'était penchée à la fenêtre. Vous savez quoi ? Plutôt que de mettre un système de faire en sorte que les fenêtres ne s'ouvrent pas et surtout la protéger, et ce d'autant qu'elle avait
risque pour n'importe quel enfant.
Mais exactement, ouais. Et ce d'autant que cette petite avait une auxiliaire de vie scolaire qui était censée la surveiller quand même. Plutôt que de faire tout ça, on l'a déscolarisée. Et puis, évidemment, comme je m'en suis mêlée, on l'a rescolarisée, mais dans une école bien plus loin que celle qui était proche de son domicile. Et donc, c'est quand même absolument honteux. Et ça, c'est tout à fait régulier. On met pas en place les aménagements pour les enfants. Parfois, on a besoin de pas grand-chose. On a besoin d'une personne adulte aux côtés de l'enfant qui soit formée et qui sache gérer des moments de crise, des moments d'angoisse.
Est-ce qu'il y en a des personnes formées ? Est-ce que la France est en retard par rapport à certains pays de l'Europe du Nord ?
Alors oui, bien sûr, on a un retard considérable.
40 ans, je crois, de retard.
Voilà, on dit qu'on a, on a 40, 50 ans de retard par rapport aux pays voisins. Enfin, on est le pays honteux de ce point de vue-là. Et quand on se dit pays des droits de l'homme, mais parce que je pense, alors il y a plusieurs facteurs, hein, mais un des facteurs premiers, c'est que la psychanalyse est très, très ancrée en France et que nos médecins psychiatres et pédopsychiatres sont formés à la psychanalyse et ont toujours un regard toujours porté sur le lien mère-enfant et ont empêché ces méthodes, entre guillemets, ces interventions de venir en France et de s'implanter. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas oublier que l'autisme, c'est quand même 650 000 personnes, c'est une naissance sur 100, et donc c'est une manne financière extrêmement importante, et c'est aussi un sujet qu'il faut aborder.
Et vous défendez
tout ce que vous avez dit là j'ai rencontré pour la Projo justement, vendredi soir, j'ai rencontré une dame qui m'a dit maman d'autiste, d'une petite fille, que j'ai vu qui était assez c'était compliqué, mais là exactement tout ce que vous m'avez dit, elle veut partir dans un pays étranger pour
la plupart des parents s'exilent, enfin pour ça il faut en avoir les moyens parce que ça coûte très cher. Généralement l'idée c'est de partir aux États-Unis, en Suède, en Belgique, et encore en Belgique je ne pourrais que dire aux parents de se méfier énormément de la Belgique parce qu'on y a construit des usines à français, parce qu'évidemment la Belgique a été financée par notre sécurité sociale plutôt que de faire des choses intéressantes en France. On a financé vraiment l'exil des enfants autistes en Belgique, qui aujourd'hui représente une énorme somme d'argent. Il est bien évidemment impossible aujourd'hui de faire revenir tous ces enfants en France, on ne saurait pas où les mettre. Et ce d'autant qu'aujourd'hui, il y a encore un défaut de place évident des centres inadaptés.
Et quand vous dites que ça concerne 650 000 personnes, il faut penser aussi à la famille, à tous les proches qui sont autour.
Et
ça fait des millions de personnes concernées par l'autisme. La cause des autistes, c'est chez Payot. Et on sent au-delà de votre verve, on sent toute votre conviction, en tout cas, à les défendre. Merci Sophie Janois.
Je voulais juste dire une chose, c'est un livre absolument formidable, c'est certainement le meilleur sur le problème qu'est l'autisme aujourd'hui. Donc la cause des autistes, je recommande vraiment ce livre qui est vraiment excellent, chez Payot.
Merci beaucoup Tanguy, bonjour. Le président Macron a mené il y a plus d'un an une étrange campagne.
Oui, ses comptes de campagne révèlent qu'il a acheté 18 kilos de fraises Tagada, on savait qu'il était jeune mais quand même, et qu'il a claqué 5000 euros dans des retouches Photoshop pour son affiche alors qu'il est beau et a le visage aussi lisse que le cul d'un babouin. Donc pour Fillon, je sais pas, ils ont dû prendre 30 000. Je vous parlerai aussi de la fête à Macron de samedi bien sûr.
C'est la bande originale avec Leïla Kadour-Boudhadi.
Bonjour à tous.
Jérémy Crédville. Tanguy Pastureau. Daniel Morin.
Bonjour Daniel.
Albert Abdou. Et nos invités, Alice David et Arnaud Ducret.
Fais-moi l'amour, Alice. C'est qui a dit ça, là ?
Toi,
du public.
Toi.
Oh, Tanguy Pastureau, il est ingérable.
Est-ce qu'il a été bienveillant avec vous, Alice David, sur le tournage de Monsieur Je sais tout ? C'est le moment où il faut balancer maintenant.
Je l'ai balayé quatre fois.
Ce film, vous l'avez tourné à La Rochelle. Alors, il faut dire que initialement, le livre, le roman, La Surface de Réparation, qui a inspiré les scénaristes, Stéphane Archinard, et François Prévost-Légoni, ne se passait pas là-bas, mais à La Rochelle, là où se trouve l'auteur du roman, c'est ça ?
Non, c'est un livre, donc La Surface de Réparation, comme vous le disiez, qui en fait, c'était à Sedan. C'était beaucoup plus sombre. C'était le livre était voilà. Moi, j'étais ancien enfant battu. La mère de Léo était alcoolique, ancienne alcoolique. Enfin bon, et justement, les associations, quand ils ont rencontré pas mal de personnes concernées par l'autisme, leur ont dit, écoutez, c'est quoi, mettez un peu de lumière sur le film, quoi. C'est-à-dire pas trop sombre. Enfin, c'est pas un documentaire. C'est voilà, il y a des vrais moments de bonheur et de joie avec ses enfants. Il faut aussi en parler.
Alain Gillot vit à La Rochelle.
En revanche, il n'y vit plus maintenant, mais c'est vrai qu'effectivement, François et Stéphane avaient tourné leur premier film,
Amitié
sincère, là-bas. Et c'est vrai que la lumière à La Rochelle, comme il n'y a pas d'immeuble, il n'y a pas de grands immeubles, la lumière reste longtemps, la lumière est très belle, et ça donnait une image magnifique.
Il y a ces tours qui gênent à l'entrée du port, là, qui sont
insupportables. Non, mais je te jure que même tu te balades dans La Rochelle, c'est bas. Tu connais, Nagui, mais tu te balades, la lumière est présente très tard, quoi. C'est très, très beau.
Alors, ce film raconte donc l'histoire de votre neveu, interprété par Max Bessette de Malglaive, qui s'appelle Léo, qui a été éduqué par sa grand-mère, joué par Caroline Silol, qui est donc votre maman. dans le film. La maman de Léo, on ne sait pas trop ni le pourquoi ni comment. Voilà, il n'y a pas de repère. Vous avez aussi quitté relativement jeune la famille pour devenir footballeur, puis entraîneur de foot puisque vous avez été blessé. Là, vous retrouvez Alice David qui joue le rôle d'un docteur dans le centre de formation. Arrive ce Léo que vous devez garder puisque votre maman est hospitalisée. Vous devez le garder. Vous n'avez pas envie de le garder. C'est comme une espèce de boulet. Reste là, reste dans les gradins avec ton sac à dos. Ne bouge pas pendant qu'on fait l'entraînement.
Et c'est le majordome aussi, parce que c'est une famille assez riche. Et c'est toute la famille, les intendants qui s'occupent de la maison de ma mère.
Joué par Féodore Atkin.
Qui est formidable, ouais. Ouais. Voilà. Qui aussi sont deux personnes d'une soixantaine d'années. Ils sont épuisés, quoi. Épuisés, parce que c'est aussi ça.
C'est une attention de chaque minute.
C'est une attention de chaque minute. Donc ils sont épuisés par ce gamin, il a besoin de se reposer. La maman, elle a eu un problème au cœur, ma maman est à l'hôpital. Et donc voilà, nous aussi, je leur dis un moment d'ailleurs, je leur dis mais moi j'ai ma vie. Puis aussi, ils disent nous aussi on a notre vie, qu'est-ce que tu crois? Ça fait des années qu'on...
Et puis elle vous le demande un effort, juste 15 jours, le temps de se reposer, quoi, comme des vacances.
Voilà, et les 15 jours vont s'avérer certainement être trop courts pour moi d'ailleurs.
Ouais, ça va totalement bouleverser votre vie parce que vous avez une vie de solitaire, vous ne voulez pas vous embarrasser que ce soit d'une famille, d'une fiancée ou d'un attachement quelconque, d'autant que vous préparez à partir, vivre une carrière un peu de sniper du football pour gagner de l'argent. Facile, entre guillemets, en Chine pour former d'autres joueurs. Voilà. Et ça aussi, ça va être essentiel, c'est-à-dire que le petit Léo va vivre ça comme une trahison.
Ben comme une trahison, exactement. Voilà. Un abandon de plus, et il commence à avoir cette petite lumière grâce au foot, grâce à moi. Et d'ailleurs, je le précise parce qu'on n'en a pas parlé encore, mais il va répéter un chiffre, 77.
77.
Ouais. Voilà, qui va répéter. Je ne dis pas. mais pendant tout le film, il va répéter 77 et on découvrira. Je le dis parce que j'aime bien ce moment. On découvrira pourquoi il n'arrête pas de me répéter 77. Ce que je vais courir après ça, d'ailleurs. Je pensais que c'est Seine-et-Marne, c'est quoi, c'est, voilà. Ce moment est assez beau.
Ça, c'est bien parce qu'ils arrivent à marier le pathologique et le romanesque ce chiffre. Ça, c'est formidable.
Et puis, il y a tout ce côté comédie romantique aussi avec vous, Alice David. Évidemment, on sent qu'il y a un jeu de séduction qui se passe entre vos deux personnages. Tout ça n'est qu'un film...
C'est surtout moi qui l'a séduit, d'ailleurs, au début, qui est le mec bas de plafond.
Oui, oui, mais on sent qu'elle n'est pas non plus totalement indifférente.
On n'est jamais totalement indifférent, Arnaud. Sache-le, la guille.
On ne sait pas si elle est juste sympathique, souriante, gentille, ou si, au contraire, elle est intriguée ou intéressée. On ne sait pas si elle a une vie... personnel, puisqu'il y a un potentiel fiancé, amant ou mari qui veut la défendre dès l'instant où la conversation commence à faire du bruit dans la cuisine de son appartement ou de sa maison. Donc voilà, elle est, en tout cas, vous êtes équilibré, vous êtes la référence et c'est vous qui voyez poindre cette possibilité de bien-être et de bienfait pour Léo.
Ouais, absolument. En plus, elle le dit très, très tôt dans le film. Voilà, j'ai fait mon internat avec des enfants de ce type, donc elle connaît ça.
Je sais ce qu'il a.
Je connais ça par cœur. Ouais. Je vois exactement où ça peut aller et quelles sont les erreurs à éviter.
Et notamment quand il a une blessure et qu'il n'a pas mal.
C'est le truc qui va tout de suite la faire tiquer, quoi. Vraiment. Au-delà de ça, même je vais pas spoiler le film, en fait, mais.
Il faut souligner le travail d'Alice, excuse-moi, Alice, mais c'est vrai que c'est pas évident parce que c'est beaucoup un duo, en fait, quoi. Et elle est dans l'explicatif, son personnage. C'est vrai, c'est le médecin, elle explique, elle apprend à Vincent et elle apprendra aussi au spectateur ce qu'est l'autisme. Enfin, voilà, elle donne un peu les clés, quoi. Et c'est vrai que c'est pas facile, elle s'en tire magnifiquement bien parce que c'est, vous le disiez tout à l'heure, je crois, Albert, d'ailleurs, elle explique, mais voilà,
elle n'est pas didactique.
Voilà, c'est ça, voilà. Merci.
Donc ça vient dans l'action. Exactement. Et donc ça, c'est très plaisant aussi.
Et ce qui est encore plus fort, toujours sans spoiler le film, c'est que si. Divulgâcher.
Si
quelqu'un ne. Si quelqu'un divulgâche la tête de ma mère, ça va. Moi, j'ai un mec dans la rue, il m'a dit la tête de ma mère, si tu divulgâches, je te défonce. Putain, mais t'as pris ça où, toi?
C'est que ce n'est pas spécialement l'amour qui va pouvoir faire basculer. Enfin, si, c'est l'amour qui va pouvoir. Qui va faire basculer votre personnage, Arnaud Ducré, mais...
C'est l'humanité aussi.
C'est une autre forme d'amour que celle à laquelle on peut s'attendre. Le film sort après-demain et s'appelle Monsieur Je Sais Tout. Il le sait tout, c'est Tanguy Pastureau qui m'a traité l'info. Tanguy, c'est bon l'amour.
Fais-moi l'amour, Tanguy.
Ça suffit, Nagui.
Tanguy, le week-end politique a été bien chargé comme il faut.
Oui, d'abord, il y a les comptes de campagne de Macron avant qu'il se prenne pour le King, hein, quand il touchait encore le sol il y a un an et demi. Alors, Mediapart, le site de l'exterminateur de président Edoui Plenel, est allé fouiller là-dedans et, surprise, les prestataires de sa campagne lui ont tous fait des ristournes. La vie de Macron, c'est Cdiscount le jour du Black Friday et à finir chez Tati dans le bac à chaussettes, à se faire tripoter par des mères de famille. Self Contact, la boîte qui a fait le démarchage téléphonique pour le candidat Macron, c'était comme le téléphone rose, hein. Il disait « il est beau, il sent bon, il est sexy » et la personne contactée se caressait en se disant « purée, ça a changé le centre depuis Bayrou ». Cette boîte a accordé une remise de 77 000 euros à Macron sur une facture de 240 000, 25% de rabais. Même les calendriers de l'Avent refourgués le 17 janvier, on passa. La location de la maison de la Mutualité à Paris, 40 000 euros de remise. 4 heures passées dans un bungalow à Center Park, ça nous coûte moins cher à nous qu'une ça nous coûte plus cher à nous qu'une soirée à la Mutualité pour lui. Même sur les frais de nettoyage des salles, on lui a fait moins 1000 euros. Macron a les seules techniciennes de surface qui lui disent « t'inquiète bébé, la note c'est pour moi, à condition qu'en sortant tu le bouges bien ton petit boule ». Pendant ce temps-là, Fillon le Yeti des sourcils et Hamon le roi de la loose se faisaient facturer plein pot tous leurs meetings. Et ils ont fini à poil avec des partis politiques aussi défoncés qu'un puceau à Pattaya quand arrive le bus des touristes allemands. Mais bon, c'est Macron donc ça passe. On en cause 4 minutes, tous médias confondus. Si Méluche ou Marine avaient été incapables d'expliquer où était passé le 14e ticket de resto de leur carnet de 24, BFM partait en breaking news. Mais là, on en a moins parlé que du trash metal en Jamaïque. Alors, les comptes de campagne révèlent aussi que l'équipe de Macron a acheté 18 kilos de fraises Tagada. Enfin, acheté, Haribo a dû leur offrir parce que Macron ne paye rien. Hein, c'est le seul Gus de 40 ans qui joue à la marchande. Bonjour madame, je voudrais deux poireaux. On fait comme si que je vous donnais 3 euros. Au revoir madame. Enfin, il en a eu pour 5000 euros de Photoshop sur son affiche de campagne. Ça a été révélé par Quotidien, l'émission télé que seuls les cons attendent une fois la semaine. Les graphistes ont annoncé à ont ajouté à Macron une cravate et une veste. Hein. Il a dû poser tout nu. Hein. Un jour, il était défoncé en pleine montée de fraises Tagada. On lui a lissé la peau et retiré les cernes, alors qu'il a déjà la face tendue comme un soutif de cagole. Et que sa seule valise, c'est la Vuitton de sa femme quand il part prendre la flotte au Touquet. 5000 euros pour ça. Ça veut dire que sur Juppé, les mecs prenaient un demi-million et j'ai juste retrouvé avec la tronche de Zac Efron.
Bon, alors le président Macron, loin de toutes ces histoires, a fait lui un bon voyage.
Oui, il est notamment allé en Australie où, comme d'habitude, il a tripoté le premier ministre local, lui a fait des bisous, il a failli twerker contre le sexe de l'autre. Si bien que la presse australienne l'a surnommé Pépé le putois. Hein, c'est un personnage de cartoon en rude qui se colle au premier gueux. Macron, c'est le seul frotteur à jamais avoir pris le métro. Alors, un article du Monde de samedi cite Bruno Roger Petit, porte-parole de l'Élysée, à qui on demande « Mais pourquoi Macron est-il si tactile ?» On a l'impression qu'il est habité de la passion qu'a le pape François pour les pieds des pauvres, mais étendu au corps entier de tout le monde. Il répond « Le toucher pour lui, c'est un deuxième langage. Hein, » Macron a pris frottement deuxième langue. Un DSK naguère l'avait en première langue Coef 130. Et Roger Petit ajoute « C'est un toucher performatif. Le roi te touche, Dieu te guérit. » Dieu, c'est Macron. Hein. Vous avez une mycose, pas besoin de crème. Macron y colle un doigt, fini. Hein, à sa mort, on le mettra dans la grotte de Lourdes et les éclopés, Neymar et d'autres, viendront frotter le membre déficient sur son cercueil. Mais on est sur des niveaux de flagornerie jamais atteints. Le Guinness Book a appelé l'homme le plus grand du monde pour lui dire « Coco, on te vire, on a besoin de ta page pour caser Roger Petit, un Français qui a vu la Vierge, laquelle surprise est un mec de 40 ans. Hein, Roger Petit, vous lui mettez un bonnet à grelot, il danse devant Macron en soufflant dans un pipeau. Il est prêt à tout. Vous filez du GHB à Francky Vincent, il est moins offert que ça. » Alors les seuls à ne pas prendre Macron pour Vishnou, c'est la France Insoumise hein, qui a défilé samedi. La fête à Macron, ils ont appelé ça, ils ont chanté, guinché, c'était un mélange de mai 68 et de fête de la musique, si tous les icônes étaient de gauche, donc de fête de la musique. Marlène Schiappa, Miss Becherel, a écrit sur Twitter, on dit pas la fête à Macron d'abord, mais la fête de Macron, sauf que le sens est tout autre. Hein, la fête à Macron, c'est Mélenchon qui le pend, la fête de Macron, c'est Roger Petit en Australie qui crie, oh, quelle chance vous avez, Mr. Prime Minister, de vous faire frotter par notre divin teckel à poil dur, Dieu en personne qui a choisi le corps d'un effet picard pour s'incarner. Enfin, Alexis Corbière, vous savez, le gosbo de la révolte sociale, eh bien, a tweeté une photo des Champs-Élysées noires du monde en disant la fête à Macron, mais quel succès, hein, sauf que c'était une photo, de France 98. Hein, Corbière, demain, pour indiquer que la grève SNCF cartonne, il poste une photo de train en Inde avec 400 types, une vache sacrée et 12 poules accrochées à la locomotive, et il met comme réglementaire dans le cul les usagers du Rennes Paris. Alors bien sûr, il a dit qu'un pote lui avait envoyé la photo pour rire et qu'il l'avait postée telle quelle. Il ne vérifie rien. Hein, je pense que la prochaine manif,
surtout on voit que c'est Jean-Zézé,
voilà, il va poster sa liste de courses et un dick pic. Bref, en politique comme au foot, ça fait longtemps qu'on n'a plus de champion.
Merci Tanguy Passiot.
Tanguy Pastureau, lui, ne vous le dira pas, mais moi, je vous le dis, chez Michel Lafond, pardon, publie une année en Macronie. Les chroniques, il y en a un tout petit peu d'RTL, mais pas beaucoup. Et après, il y a tout France Inter. Tout...
Il y a mes prochaines chroniques sur Rire et Chanson aussi de l'année prochaine. Déjà.
C'est ça, déjà. Bah, vous recyclez comme ça.
Toi aussi, tu prends un an d'avance, toi.
C'est ça. Un pays, un héros, un chroniqueur, c'est Choose France, Choose Macron, la Macronie signée Tanguy Pastureau.
Merci.
Chez Michel Lafond.
J'instagramise
la moindre.
Quel succès pour ce livre.
Voilà, formidable. Alice David, Arnaud Ducret sont là pour nous parler de Monsieur Je Sais Tout, un film qui... est-ce que c'est difficile de jouer autour justement de la maladie ou de la difficulté d'insertion, Alice?
Non, je pense pas. Je pense qu'en fait, il faut pas penser à ça. Je crois qu'il faut vraiment rester dans le réel et dans ce qu'on est. Et au-delà de ça, ce film, il parle d'autisme parce que c'est le petit Léo qui a atteint du syndrome d'Asperger. Mais au-delà de ça, il parle plus de la différence, en fait,
de l'exclusion à cause de la différence.
C'est vraiment ça. Et je pense même le propos du film. Nous, on a fait pas mal d'avant-premières dans la France et tout. Et ce qu'on voulait souligner, je pense que ce qui fonctionne aussi, c'est que le propos, c'est pas aux autistes aujourd'hui de s'adapter à la société, mais la société doit s'adapter aux autistes. Et c'est ce qu'on a voulu dire, enfin en tout cas ce que Stéphane et François ont voulu dire dans leur scénario.
Drôle, mais avec des valeurs aussi. Film intelligent, Monsieur Je Sais Tout. Drôle et avec des valeurs.
Musique.
Tout le contraire de Daniel Morin. Que...
Merci David.
Quelle joie, quel bonheur, quelle félicité, j'en salive à l'avance. Ça va se passer à Marseille, j'en ai déjà des frissons. Ça va se dérouler le 15 juin prochain. C'est le rendez-vous littéraire de l'année. C'est des livres, des stars, le festival du livre écrit par des célébrités. Que du bon, que du très bon, de l'excellent, serais-je même tenté de dire, cette année pour la 4e édition. Comme le temps passe, je me souviens même pas des 3 premières. Comme cette année, je disais, la marraine, attention, rien de moins que la tête de gondole de chez Nivea, Estelle Lefébure, et le président d'honneur, qui cette année, ne doit pas être loin de ses 150 ans de carrière, Michel Drucker. Autant vous dire que le niveau, c'est over the fucking top. Et quand on voit la sélection, on sent l'exigence des organisateurs. Je vous donne quelques noms.
S'il te plaît.
Comme ça, pour vous faire rêver. Serge Lama, Luana Belmondo, Smaïn, Valérie Trier-Weller ou encore Dani, attention la chanteuse, pas le yaourt au chocolat. On est limite shortlist pour le Nobel ou le Goncourt. Alors pourquoi organiser un festival de livres de stars? Eh bien, on a une explication limpide de Françoise Smadja, la créatrice et organisatrice de ce festival. Elle déclare tout simplement « J'ai remarqué que les gens aiment les stars ». Bravo, tout est dit, c'est concentré, c'est limpide. Bien vu Françoise. Arnaud Ducret, vous n'avez pas l'air au courant de ce festival et c'est dommage. Vu le casting, vous auriez pu éditer votre liste de courses des 10 dernières années et vous aviez votre place là-bas. L'année prochaine, je compte sur vous pour faire tout exploser à l'occasion du 5e anniversaire de l'événement. On pourrait avoir une programmation de fou. En 2019, pour sa 5e édition, le festival des livres des stars frappe encore plus fort. Cette année, le prestige a rendez-vous sur la Canebière, jugez plutôt. Parmi les stars 2019, vous retrouverez Benoît Magimel pour son livre « Ma vie à fond en marche arrière », Kim Kardashian pour le récit de sa carrière, un livre intitulé « Ma vie, mon cul », Nagui pour le livre de photos très personnel où la star de France 2 pose nue en chaussures dans chaque pièce de sa maison. Ça s'appelle « Moi, ma bite et le boutin ». Augustin Trapenard, livre des conseils pour réussir sa vie et qui s'appelle « Augustin, BTS coiffure et légende culturelle ». Un des piliers de la bande originale sera là, lui aussi, avec un livre qui rentre dans la catégorie « Bricolage et art de vivre ». C'est le maréchal Ganache. Maréchal, bonjour.
Bonjour.
Alors ce livre s'appelle « Comment fabriquer une gégène avec trois fois rien ». Quel est le cœur de cible ?
bien, c'est pour tous ceux qui ressentent le besoin de torturer quelqu'un pour une raison ou pour une autre.
Oh, est-ce qu'on est obligé d'avoir une raison pour torturer quelqu'un?
Ben non, bien sûr que non. Il existe ce qu'on appelle la torture festive et de confort, qui consiste à pratiquer la torture comme un passe-temps, un hobby.
Oh, merci Maréchal. Rendez-vous à Marseille en juin 2019 pour les dédicaces. Vous voyez, chers amis, ah, ce serait une erreur que de ne pas passer par la Canebière, pardon, pour cette édition 2019 qui s'annonce comme une cuvée prestige. Merci pour le bruitage, Nagui. Amoureux de la littérature, soyez au rendez-vous. Et comme dirait Augustin Trapenard, ce festival, disez-le aux gens, faites-le connaître. À demain.
France Inter, la bande originale avec Nagui.
Merci Albert Agot, Daniel Morin. Parlons de l'avenir. Le 30 mai prochain, à Lise David, vous serez dans le film Demi-sœur, oui, de Safia Azdin et François-Régis Jeanne, avec Sabrina Ouazani et Charlotte Gabriel.
Sabrina.
Sabrina, c'est une sauce, rien à voir.
J'ai dit quoi?
Vous avez encore un peu de Sabrina?
Sabrina Ouazani.
Mais c'est parce qu'on a bien vu que t'étais en roulis. On a vu que t'étais en roulis.
T'as dit Sabrina Brazani, je crois.
Mais arrêtez. Nous recevrons d'ailleurs Safia et Charlotte dans cette émission.
Charlotte.
Allez.
Safia.
Ouais.
Et Charlotte. Là, c'est une blague.
Bon, ça fait deux ans que je t'appelle Nagui.
Là, tu l'as bien dit, mais il se moque, tu vois.
C'est vrai?
Oui.
C'est l'humour, tu veux dire?
Oui, je pense.
Ok. Ça sera le 29 mai prochain. Vous faites quoi dans le film? Vous êtes l'une des sœurs?
L'une des demi-sœurs, oui, absolument.
Ça fait une sœur en tout, du coup.
Vous êtes Lorraine?
Oui, exactement. Lorraine, voilà. C'est une comédie vraiment, vraiment fraîche. On s'est régalé avec Charlotte Gabriel.
Vous êtes quoi, la branchouille des sœurs?
Ouais, un peu, en fait. Lorraine, elle...
Dans la mode?
Ouais, voilà. Elle rêve de bosser dans la mode. Elle connaît un peu tous ces codes-là par cœur. Et elle va se retrouver confrontée à ces deux demi-sœurs qu'elle ne connaît pas. Elle les découvre. Elles héritent toutes les trois d'un appartement. À la mort de leur père et elles vont cohabiter ensemble et voilà. Je trouve que j'aime beaucoup ce film parce que on pourrait partir sur des choses assez clichés et finalement l'écriture de Safia Azdin enlève tout ça et leur ajoute justement du piment et de la finesse et voilà, avec les filles, on est très contentes de ce film. On avait adoré le scénario. Et
le 30 mai, on en parlera la veille dans cette émission. Les projets, Arnaud, qu'est-ce qui va se passer pour vous
J'ai un film qui va démarrer en août, là, une comédie. Mais voilà, j'attends que tout se signe. Mais ça y est, là, on est dessus, là. Ça y est.
Avec qui?
Ce sera avec FX, François-Xavier de Maison. Voilà,
très bien.
Un duo avec lui et moi. Et on tournerait ça cet été.
À Perpignan?
À Marseille.
Non, parce que c'est un peu son spot maintenant.
Ah oui. Pour ça. Non, ce serait plus sur Marseille. Et voilà, mais bon, on est en train de regarder. Tout est en train de se formaliser. Mais on est en train de.
Ah, puisqu'on parle de.
Vous avez touché combien?
Puisqu'on parle de François-Xavier de Maison. Parlons du théâtre, puisqu'il il est propriétaire du Théâtre de l'Œuvre. Est-ce que oui. Monter sur scène, je vous parlais tout à l'heure de troupe, faire une pièce de théâtre, mais pas un stand-up, pas un one-man show, pas.
Justement, Stéphane et je sais pas pourquoi je m'en prie. Mais non, parce que je dis ça parce qu'elle était témoin de ça. Stéphane Archinard et François, justement, j'aimerais
une pièce.
Voilà, ils ont écrit là, ils ont Les Inséparables avec Didier Bourdon et Valérie Carcenti qui se jouent, que je vais voir jeudi, c'est la fin de cette
semaine. Magnifique. Excellent.
Voilà, comme quoi ce sont de très grands auteurs, François et Stéphane. Donc j'arrête pas là. Mais ils veulent aussi, je veux qu'ils me fassent une pièce avec Didier Bourdon, peut-être. J'aimerais bien faire le fils de Didier, où il faut faire, voilà, j'ai envie de jouer avec Didier.
Voilà. Alice, le théâtre?
Ah, moi c'est pareil, j'adorerais. Vraiment, ça n'a
malgré
rien...
la contrainte d'être tous les soirs endroit, à refaire le même jeu.
C'est comme quand tu rentres à la maison.
Hein. Non, mais il y a quelque chose. Voilà,
je ne simule pas, monsieur.
Il y a quelque chose de très spontané. Enfin, ce qui est génial dans le théâtre, c'est qu'on démarre la représentation, ça file pendant 2 heures. On n'interrompt rien, contrairement au cinéma où on fait quand même beaucoup de prises. Et voilà, du coup, il y a un certain côté instinctif qui s'use. Ça n'a rien à voir, c'est pas du tout le même travail, mais j'aimerais bien y revenir.
La musique, vous avez raison de le préciser tout à l'heure, on ne l'a pas bien entendu, de Mathieu Gonnet,
qui est très bonne.
La musique
du
film Monsieur, je sais tout. Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Désolé pour toute l'équipe du film Monsieur, je sais tout, qui a été quelque peu étonnée, surprise par le regard étonnamment aiguisé et pointu du cinéphile Nagui à propos de la scène dite du jean et du pied mouillé. Ah ouais, c'est navrant.
Mais c'est pas facile à enlever un jean quand t'as les deux pieds mouillés.
Ouais, c'est ça, je comprends. C'est...
On est habitués,
nous, mais je sais qu'à chaque fois ça choque. Désolé pour Arnaud Ducré cette fois. J'ai eu à la pause au téléphone Pef, Jérôme Commandeur, Alexandra Lamy, mais aussi Mel Gibson, Brad Pitt, la Cicciolina, Julia Roberts, même Paul Prébois en fin de parcours. Et tous, je dis bien tous, refusent de faire partie de votre bande. Comme le disait Leïla très justement, vous allez vraiment crever tout seul. Désolé pour nos auditeurs qui nous ont fait part de leur désintérêt total et surtout le plus profond de l'information concernant le mariage de la sœur de Jérémy ce vendredi. Alors... si on n'a aucun intérêt dans l'affaire, je veux dire, si on n'est pas invité au mariage, ni à la nuit de noces, et si on n'a pas un million de dollars, mais dans le cas contraire, c'est vrai qu'on peut la féliciter quand même.
Demain, nous recevrons Clémence Poésie et Pierre Deladonchamp pour parler du festival de Cannes.
Ah, ça commence demain.
Ça commence demain,
Adami. Festival
de Cannes.
Ah bah, et
talent Adami avec Clémence et Pierre comme invité. Merci Alice David, merci Arnaud Ducré.
Merci
à vous, à
toujours un plaisir. Bravo les gars.
De Monsieur Je sais tout, c'est ce mercredi au cinéma. Tout de suite, et Carnet de campagne de Philippe Bertrand.
Oui, bonjour. Salut Nagui. Bonjour l'équipe.
Salut.
Et donc vous êtes en direct.
Eh oui.
Non mais je comprends plus rien.
Tu pourras pas le dire demain.
Ouais. Tu prendras des risques.
Bon, je vais travailler le passage d'antenne pour demain.
Bonne émission.